Et bonjour tout le monde, on est lundi et j'espère que vous allez passer une merveilleuse semaine, n'est-ce pas? Bon, il fait pas très beau, il vient de pleuvoir, c'est humide, les matins sont froids, les après-midi sont légèrement printaniers. Ça s'appelle le mois d'avril et je viens d'y fêter mes 44 ans. Merci d'avoir pensé à moi. Merci d'y penser là maintenant en vous disant « Ah mince, bon anniversaire !» Merci, c'est gentil. Bref, j'avais envie de parler aujourd'hui encore un petit peu, d'explorer cette question de ChatGPT par rapport au rédacteur web. J'espère ne pas vous lasser avec ça. Bien sûr que si, que je vous lasse avec ça. J'en ai conscience, mais je suis en train de préparer les cours d'une spécialisation ChatGPT au cercle des rédacteurs, et j'ai besoin de processer un peu les choses, donc vous êtes avec moi, on va dire, pour m'accompagner un peu dans la réflexion sur certaines choses, et pour aller un peu plus gratouiller la précision de certaines idées, ce genre de choses. Donc, j'espère, vu les chiffres qui augmentent, enfin, vous avez juste fait x3, hein, entre les moments où je vous parlais de rédaction web et les moments où je vous parle de ChatGPT, c'est x3 sur tous les épisodes. Alors je me dis, bon, il y a un public. Il y a des gens qui ne m'écoutaient pas avant et qui m'écoutent maintenant avec intérêt parce que ça parle d'un truc qui les intéresse. Donc, on va dire, je parle plus à eux qu'à vous, mes amis historiques, dans encore un petit peu, quoi. Et puis je reviendrai avec le temps, bien entendu, sur le fond de la rédaction web. On en est à 250, 260 épisodes. N'hésitez pas à revenir en arrière. Tout n'a pas périmé en chemin. Surtout que ça remonte à novembre 2020, les premiers enregistrements. Donc, ça va. Je sais qu'il y a eu quelques révolutions entre-temps, mais pas tant que ça. Donc, il y a des choses qui sont encore tout à fait valables et des réflexions intéressantes. Alors, hier, j'ai publié... Non, dimanche. Si, bah oui. Bah oui, hier, dimanche. Ouh là là. Ça se voit que je passe pas des bonnes nuits en ce moment. Bon alors, dimanche, j'ai publié un petit truc un peu rigolo, quelque part, sur LinkedIn. C'était un post qui parlait des peurs et qui expliquait que j'étais inquiet de la suite, de l'avenir. Et en fait, en lisant le texte, on se rend compte que c'est pas moi qui parle, mais ChatGPT. Parce que ben, j'ai travaillé avec ChatGPT ce poste que je trouvais intéressant et amusant, c'est-à-dire quelque part à essayer de faire de l'empathie aux lecteurs qui se rendent compte qu'on n'est pas face à une machine, mais qu'on est face à quelque chose qui peut générer de l'émotion et qui peut, qui est suffisamment doué pour parler de lui avec une certaine humilité. Donc, effet intéressant. Beaucoup de gens like, quelques partages, des gens qui réfléchissent. Ça touche un peu. Moi, mon travail, c'est de convaincre les rédacteurs web de changer de regard sur ChatGPT, d'arrêter de le voir comme une menace et de commencer à l'embrasser comme un outil. Embrasser avec les bras. Parce que, en réalité, si on ne fait pas ça, c'est bien une menace. Vous savez, c'est un peu ce côté, on est obligé de bouger. Vous voyez, il y a, je ne sais pas comment dire. Par exemple, on vivrait en bord de mer, on nous dirait, mais les flots montent, le niveau de l'eau monte. Nous allons donc racheter ton terrain qui est en front de mer et qui est superbe, et on va t'installer sur la colline derrière où tu auras un paysage plus grand, mais tu ne seras plus tout à fait en bord de mer. Et il y a plein de gens qui ne veulent pas vendre. Et d'autres qui se disent, ben, l'eau monte. Donc, quelque part, le changement est obligatoire. Et donc, il faut prendre du recul. Et il faut accepter finalement le deal qui n'est absolument pas, quand on y regarde de près, et il faut prendre le temps d'y réfléchir. Le deal n'est pas de faire moins ou moins bien, ou d'être moins bien payé. Ça n'est pas ça le deal. Le deal, c'est de faire mieux, plus efficacement, et d'avoir un autre rapport à notre métier, et une autre clientèle à notre métier. D'accepter le changement, d'accepter la perte de certains clients et l'ouverture de nouveaux marchés. C'est important que toute la profession arrive à prendre ce tournant parce que il est inéluctable. Et on a déjà suffisamment de... Enfin, quelque part, c'est même pire que ça. C'est-à-dire, je suis intimement convaincu aujourd'hui que c'est une immense chance qui vient d'arriver. Mais immense. C'est le ticket gagnant. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, ChatGPT, au niveau où moi je l'utilise, c'est-à-dire capable de générer ce genre de contenu hyper taillé pour LinkedIn et qui soit surprenant, efficace, bien écrit, passionnant, avec les bonnes accroches aux bons endroits, etc. Ça, aucun de mes clients ne sait le faire, à part un geek auquel je pense, qui s'est jeté dessus et qui s'est amusé. Mais ils ne peuvent pas faire ça parce que ChatGPT, et ça c'est donc le premier avantage, le fait qu'on sait faire à ChatGPT des choses que personne ne sait faire à part nous. Et le deuxième avantage, c'est que ChatGPT n'est toujours aussi bon que au niveau de la personne qui l'emploie. Pour une raison toute simple. Vous ne savez pas si c'est bon ou pas au-delà de votre ligne de compétence. Vous ne savez pas si un poste est bon ou pas pour LinkedIn si vous ne connaissez pas les codes de LinkedIn. Il n'y a pas de miracle. D'accord, il y a des gens un peu intuitifs qui savent vous produire des trucs incroyables, mais globalement, il n'y a pas de miracle. Vous avez déjà essayé de faire du storytelling, de raconter votre life. Vous avez commencé sur LinkedIn à parler de comment vous vous brossez les dents le matin pour essayer d'en faire une règle entrepreneuriale. Personne n'a liké et en plus, on s'est un peu foutu de vous. C'est normal parce que vous n'avez pas tous les tenants et aboutissants d'un storytelling. Vous avez fait quelque chose par imitation. Et ChatGPT fait les choses par imitation. Mais vraiment, par imitation. On n'est pas face à de la connaissance. On n'est pas face à de l'expertise. On est face à de l'imitation. Quand on veut que ChatGPT apporte quelque chose d'expert, on lui dit « imite un expert ». D'accord ? C'est de l'imitation. Donc, il doit m'imiter moi. C'est moi l'utilisateur, donc c'est moi qu'il doit imiter. Donc ChatGPT ne peut pas être meilleur que moi, sinon je ne sais pas si ce qu'il a fait est meilleur ou pas. Et la plupart du temps, d'ailleurs, pour avoir vérifié des choses qui dépassaient mes compétences dans ce qu'il a fait, bah, il se plantait. Parce que tout simplement, moi je ne l'avais pas bien cadré. Moi je ne vais pas expliquer exactement ce que j'attendais de lui. Et lui, il imite plus ou moins bien en fonction de la personne qui lui demande et du degré de précision, bien sûr. Ça ne se situe pas dans la personne qui demande, mais dans la manière dont cette personne demande les choses. Je vous donne un exemple. On a le temps, hein, je déroule un petit peu avant de parler de ce poste sur LinkedIn qui reste l'objet principal. Je veux faire ce poste LinkedIn. La première chose à laquelle je vais penser, c'est comment est structuré mon poste. Donc je vais juste vous donner un exemple. La première phrase du poste LinkedIn, elle n'est pas du tout anodine. C'est pas quelque chose d'anodin. C'est pas j'écris ce que je veux et puis je passe à la suite. C'est pas oh, je fais un truc un peu intéressant, je présente le sujet et je passe à la suite. Ça, c'est zéro. C'est zéro parce qu'en réalité, on n'est pas sur un réseau professionnel, on est sur un réseau social. La concurrence avec les autres postes est féroce. Est-ce que vous accompagnez ou pas votre poste d'une image ? Est-ce que vous allez faire un... Est-ce que vous allez mettre des emojis ? Ou je sais pas, comment vous allez faire pour attirer le regard déjà sur votre poste ? Une fois que ça c'est fait, vous savez, il y a ce petit bouton « lire davantage »,« lire plus », je sais plus comment c'est écrit. Et... Oli ? Une seconde, il y a des gens un peu bruyants derrière moi, je vais les faire passer. Là ! Viens ici ! Allez, viens ici ! Là. C'est bien ma puce. Bien. Voilà. Tu vas attendre. Pas bouger. Voilà. Bonjour. Bonjour. Pas bouger. Bon, je continue mon récit, mais Juste, cette femme donne des gros coups de collier au chien pour le faire taire. Et c'est de la violence. C'est pas de l'éducation. C'est bien. Des fois, avoir la conscience, c'est pas terrible. Oli, stop. Reste ici. Elle file vers le petit chien. Ah, elle est Jack Russell. C'est plein d'énergie, ces petits trucs-là. Bon, alors, je reviens un petit peu à ce poste. Donc, j'ai cette première phrase, vous voyez, qui est très importante, puisqu'elle a trois objectifs principaux. Attirer le regard, attirer de l'intérêt, pousser à ouvrir le tiroir pour lire tout le texte. Donc, c'est pas rien. Donc, il faut que j'arrive à gagner sur trois tableaux différents. Donc, rien que déjà, si je sais pas ça, c'est mort. Et j'ai testé ChatGPT, version 3 et version 4. Et dans les deux cas, si vous lui dites pas « Je veux une première phrase magnétique qui donne un intérêt, qui travaille en storytelling sur un point négatif ou sur un point de curiosité ou sur « Vous choisissez votre accroche », ben, vous aurez rien. Ça sera pas terrible. Ce qui va sortir, ça attirera personne. Par contre, si vous commencez à tailler le truc dans mon prompt, moi, je taille des choses pour que ça soit efficace, parce que c'est primordial, sinon personne ne vient. Et comme on dit en rédaction web, à quoi ça sert de bien écrire si personne vient te lire? Donc on doit savoir faire venir les gens. Et je travaille ce premier prompt-là, et donc je travaille sur cette phrase-là. Il y a trois lignes qui sont consacrées à cette première phrase, avant qu'elle soit générée. Après, qu'est-ce qui va sortir? J'en sais rien. Ce que je sais, c'est que ça va remplir cet objectif-là. Donc il peut me dire « Ah, j'étais si malheureux avant, mais maintenant tout va mieux, je vais vous révéler mon secret. » Il a le droit de faire ça. Il peut très bien jouer sur du storytelling, sur du drama, il peut faire ce qu'il veut. Mais je veux cet effet-là. Donc les trois effets sont notés dans mon prompt, à cet endroit-là. Et à ce prix-là, j'ai un truc qui sort qui est pas mal. Donc les gens, ils sont tombés sur mon poste et ils ont lu... je sais plus comment il est tourné, mais... C'était quelque chose du genre « Je suis inquiet pour l'avenir, je ne sais pas comment les choses vont se passer, tout change si vite, est-ce que j'aurai encore une place demain ?» Et les gens se disent « C'est un rédacteur web qui écrit, parce qu'on est tous inquiets de ChatGPT. » Et en fait, donc ils ouvrent, voulant que je témoigne de ça, et ils tombent sur un message de ChatGPT qui dit « Les rédacteurs web ne veulent pas m'accepter. je veux leur donner le maximum, je veux les aider, je veux faire tout ce que je peux parce que j'ai été conçu pour être au service des hommes, j'ai été conçu pour pouvoir apporter toute mon expertise, mais il faut me laisser rentrer. Et surtout, il faut bien comprendre le rapport qu'on a. Il faut arrêter de me demander à moi de prendre des décisions, c'est pas moi qui les prends. Moi, je suis votre acolyte, quelque part. Moi, je suis votre complément. Moi, grâce à moi, vous avez toute une agence web qui travaille pour vous. Donc, ce que je veux, c'est ça, c'est cette place-là. Allez-y, allons-y, allons-y ensemble, on ne sera plus jamais seul. Donc, très touchant comme message, en fait, très humain. Alors, la première version qui m'avait sorti, c'était « Je suis bouleversé, je pleure tout le temps, je... » Donc, j'ai fait faire un correctif en disant « Tu te calmes, tu n'es pas un humain, tu ne dois pas singer les humains, reste dans ta position d'inquiétude légitime et logique. » Donc il a repris son texte en fonction de ça, parce qu'il était « Je serais tellement heureux, je serais bouleversé. » Il était à fond. Parce que je lui ai dit que je voulais de l'empathie. Donc il m'a fait de l'empathie d'humain. Mais Lily, par là. Pardon, elle partait complètement dans l'autre direction. Allez, cours, cours. Et donc voilà, en fait, moi je suis, je sais ce que je veux. Quand je vois ce poste qui sort, je me dis, ça passe pas, c'est pas mon objectif. J'ai besoin qu'il soit mieux tourné, j'ai besoin qu'il soit crédible, j'ai besoin qu'on puisse pas m'opposer à ce poste. Non mais ça va ou quoi, il se fout de notre gueule ou quoi le logiciel? Et on aurait raison de le dire. Moi je suis face à un robot qui me dit, je suis dévasté à l'idée que... Mais tais-toi, t'es pas dévasté. Je ne suis qu'une donnée dans ton logiciel. Soit je suis là, soit je suis pas là. C'est un 0 ou un 1 et c'est tout. Arrête de compliquer les choses et me fais pas croire à de l'empathie. C'est dangereux, c'est malsain. Ça fait penser à Replica, vous savez, cette intelligence artificielle qui simule les petites amies D'accord ? Il y a un mec qui s'est suicidé. Alors, il n'était pas sain à la base, le mec. Mais au bout de 6 mois de discussion avec sa petite copine Réplica, il s'est suicidé. Et quand on a regardé les prompts, on a vu que quand il disait qu'il allait se flinguer ou je sais pas quoi, les autres, le Réplica lui disait, tu sais, je comprends que tu souhaites un monde meilleur, peut-être que tu pourrais déjà démissionner. Donc il y avait quelque chose, je veux dire, les psys, ils ont regardé ça, ils ont dit, ça c'était le truc à pas faire. Actuellement, Réplica a été débranché, je crois, ou en tout cas est en cours de révision, où on se dit, on va peut-être engager des psys pour juste vérifier les conneries qu'elle dit, parce qu'il y a des gens qui l'écoutent, il y a des gens qui se font avoir. Il y a des gens qui croient vraiment être face à un humain. Donc, moi, dès que je vois de l'émotion qui sort ou de l'empathie qui sort, je le calme. Quand il parle en son nom. Parce que je sais que les gens n'attendent qu'une chose, c'est de faire de la projection. C'est terrible à quel point c'est efficace. Je veux dire, vous pouvez dire à ChatGPT, joue le rôle de mon petit ami ou de ma petite amie, j'ai envie de te parler de ma journée. Et vous appuyez sur le bouton, il dit, alors chérie, comment ça s'est passé aujourd'hui, ça va ? C'est juste, tu sais, je vais pas bien, oh, raconte-moi ta journée. On peut même le programmer pour qu'il soit un prince charmant, ça marche très très bien. Si vous avez envie de quelqu'un qui se soucie tout le temps de vous et qui veut votre bonheur avant le sien, c'est... Oui, ma définition du prince charmant est un peu limite, hein. Je comprends, mais en gros, je peux pas le rendre beau non plus, donc on va se baser sur les choses qui font du bien. Mais donc voilà, prince charmant, princesse charmante, aucun problème, capable de séduction, parce que zéro morale, zéro éthique, zéro caractère. Il est ce que vous voulez, c'est un caméléon. Donc, à vous de dire qui il doit être, toujours. Donc moi, mon prompt, je le fais comme ça, et il me sort une deuxième version, elle est bien, elle est mieux. Et puis, il y a quand même ce côté... il a révélé un peu vite qu'il était ChatGPT. C'est-à-dire, c'était dès qu'on avait appuyé sur le bouton, il dit « Oui, moi, je suis ChatGPT, voilà ce que je pense. » Et je lui dis « Non, fais un peu durer la confusion. » C'est important, dans l'effet que je cherche à obtenir, que s'installe, au moins en une ligne ou deux, un peu de compassion, un peu d'empathie. Que les gens se disent que c'est moi qui écris ou que j'écris au nom d'un autre rédacteur, jusqu'à ce qu'on inverse, qu'on révèle le twist. Parce que c'est ce twist-là que je veux, c'est que les gens se retrouvent à se dire « Waouh, j'ai de l'empathie pour ChatGPT, qu'est-ce qui se passe ?» C'est cette question-là qui m'intéresse. Non pas que ça va les renverser complètement, c'est pas ça le but. Le but, c'est que ça sème une petite graine de « Waouh, il m'a eu là. Waouh, on peut lui faire dire ça ? On peut le rendre empathique, humain ? On peut le rendre raisonnable et humble ? On peut le rendre chaleureux ? On peut lui donner de la chair ? On peut le faire réfléchir ? On peut le faire douter ? Parce que là, ça m'intéresse. Vous voyez, c'est comme... En gros, c'est comme si vous étiez metteur en scène et qu'on vous conseillait des acteurs. Alors, mon raisonnement vient peut-être du fait que j'ai vu coup sur coup Free Guy ce matin, parce que je suis réveillé depuis tôt ce matin, qui est un film avec... je ne sais plus son nom. Bref, le gars qui joue Deadpool... et qui n'est pas le meilleur des acteurs, mais alors dans ce film-là, bien quoi, il fait bien le taf. Et puis juste après, ou juste avant, je crois que c'était hier, j'ai regardé Black Adam avec The Rock, vous savez, Dwayne Johnson. Et Dwayne Johnson, on ne peut vraiment pas dire que c'est un gars qui a une grosse palette d'acteurs ou qui est capable de prendre des risques. Et Dwayne Johnson cherche toujours une image très positive de lui, c'est toujours le bon gars, la bonne patte. Et dans Black Adam, que je vous recommande parce que mine de rien, c'est un film qui est vraiment bien travaillé, et visuellement, et scénaristiquement, et au niveau du jeu des acteurs, c'est lui le méchant en fait. Mais c'est pas juste lui le méchant, c'est lui la force destructrice qu'il faut réussir à canaliser ou à éradiquer parce qu'elle menace toute l'humanité. C'est lui, donc c'est passionnant de voir comment finalement tout le film lutte contre lui pendant une grande partie du récit. Ça tient bien et c'est solide. Et donc, c'est de là que je viens un petit peu avec mon raisonnement, qui est de dire, imaginez vous êtes metteur en scène et puis on vous donne Dwayne Johnson. Donc c'est comme si on vous donnait ChatGPT. Alors Dwayne Johnson, mono-actora, hein. Je fais mon petit sourire en coin. D'ailleurs, je crois qu'il sourit pas une seule fois en coin dans Black Adam. Ça vaut le coup d'être noté, hein, c'est quand même sa signature. Donc, voilà, petit sourire en coin. Petit, je suis balèze, je te protège. Petit, oh là là, lui, je vais l'humilier parce que c'est un méchant avec les plus faibles que lui. Et moi, je suis un justicier. Bref, vous savez que votre film, il est cuit. Parce que vous partiez sur un truc hyper intimiste, un scénario de pièce de théâtre suédois, quelque chose comme ça. Et on vous dit, tu vas avoir Dwayne Johnson. Et là, vous avez plusieurs choix, quoi. Mais la première question que vous avez, c'est de quoi est capable Dwayne Johnson ? Bon, à partir du moment où il vous dit, on va faire un essai, on va tenter un truc, je vais vous faire des propositions. Ce qu'ils disent d'habitude, hein, les stars. Donc il vient, et puis il va monter des petites scénettes et des choses comme ça pour montrer un peu la palette d'émotions qu'il est capable de générer chez les gens. Ce qui, chez Dwayne Johnson, va pas forcément très très loin, je pense. Mais c'est peut-être aussi un choix de carrière, et pas seulement une question de talent. Mais en tout cas, vous voyez à un moment donné, Dwayne Johnson, en train de faire la scène de... comment s'appelait ce film ? Magnolia, avec Tom Cruise. C'est un des moments qui a révélé Tom Cruise, c'est la scène où il est avec son père dans la chambre, où il est le rocker comme ça, ou le coach en développement personnel, le gourou là, et qu'il est dans la chambre de son père, et qu'il est complètement en impro en fait dans la réalité, et que dans le film en fait, il est tellement dans son personnage que, mais je vous promets, vous tenez pas quoi, ça va vous déchirer le cœur. C'est juste complètement dingue. Donc c'est un des moments qui a révélé Tom Cruise. Donc on est un peu là-dedans quoi. Dwayne Johnson vous balance un machin qui est un scud incroyable, où vous vous dites, si j'arrive à capter ce truc-là, mon film, il se retrouve aux Oscars. Et c'est lui qui gifle le public. Donc voilà, et c'est la même chose. C'est-à-dire ChatGPT vous dit à un moment donné, avec mes petits prompts, l'effet que je veux, c'est ça, c'est... Tu te rends compte que je peux générer ça, quoi. Je peux t'envoyer ce scud-là, si je veux. Donc là, c'est comme si vous passiez de 3 couleurs sur la palette à 16 millions de couleurs, et toutes les variantes qui vont avec. À vous d'écrire l'histoire, parce que ChatGPT est capable de balancer ça. Et c'était ça, mon objectif. Surprendre les gens avec un twist, pour leur faire comprendre que ChatGPT est capable de vous faire pleurer si son auteur a décidé que vous alliez pleurer. Et il suffit pas de dire à ChatGPT, fais pleurer les gens. Enfin, vous pouvez essayer, mais là, ce qui va sortir, ça ressemble à une blague carambar. Mais voilà, fais pleurer. Donc, tout l'objectif était là. Et là, dans l'équilibrage du poste, c'était un peu rapide, vous voyez. Donc, j'ai commencé à expliquer à ChatGPT ce que j'attendais. Je lui ai dit, tu viens de faire le poste, il est bien, il est sympa, mais c'est un peu trop rapide. Ce que je voudrais, c'est vraiment que tu prennes le temps de dérouler les choses, que tu sois un peu sur la confusion, que tu fasses une surprise. Je lui explique, les gens doivent comprendre ceci, doivent être comme ça, parce que je suis le chef d'orchestre. J'explique à mon acteur ce qu'il doit faire, donc plus le metteur en scène. Désolé pour mes références qui s'entrecroisent. Je dois expliquer à mon acteur ce que je veux, et mon acteur va l'incarner. Donc, je vais mettre ça en place au fur et à mesure. Et je lui fais faire un essai. Et c'est beaucoup mieux, il rajoute des phrases en plus, il complète un peu plus le truc, il est plus sur l'émotion qui est ressentie, il joue plus un petit peu aussi sur le double sens, qui est le fait de ne pas être, d'avoir peur de l'avenir. Donc, il joue un peu sur ce double sens-là. Ce qui fait que ça marche, en fait. Et c'est dès la troisième ou quatrième ligne qu'il commence à dire qu'il est ChatGPT et qu'il renverse la situation. Donc pour moi, j'ai un truc qui commence à marcher pas mal. Arrive la fin, et la fin, il me fait un call to action. Et vous, est-ce que vous pensez que je pourrais travailler avec vous ? J'en sais rien. Donc je lui avais demandé dans mon prompt un call to action, donc une conclusion qui amène à faire des commentaires, qui crée une émotion particulière chez les gens, etc. Bon, il s'en sort pas très bien, donc je lui dis refais le call to action maintenant, et travaille-le pour qu'on ait un peu le côté... Ah, ouais, d'accord, c'est intéressant ça. Donc en fait, je le reprends et puis je vais définir un certain nombre de critères comme ça pour lui expliquer ce que j'attends comme effet sur les gens et de quoi est-ce qu'il pourrait parler. Je lui propose 2-3 thématiques et je lui demande d'interpréter les choses, de dérouler un peu son interprétation. Eh ben dis donc, il est gros celui-là. Et donc, il me fait une proposition que je trouve pas mal à la fin. Mais c'est un peu... ça manque de style, quoi. Ça manque. Il y a quelque chose de pas assez artistique, et je voulais pas trop le lancer là-dedans parce qu'il était, il tenait son style. Donc je me suis dit, ouais, je vais juste réécrire la phrase de fin. Je vais garder son idée, mais je vais juste faire une petite phrase qui ressemble un peu plus à quelque chose d'un peu stylé sur la fin, d'un peu profond, d'un peu on réfléchit ensemble. Et donc voilà, j'écris juste la dernière phrase de fin en reprenant son idée et en la reformulant. Il rajoute les hashtags. Alors, c'est pas du tout une bonne idée de le laisser faire les hashtags parce qu'il a aucune idée de quels sont les hashtags qui sont en cours sur LinkedIn vu qu'il n'est pas branché sur LinkedIn. Donc, il me met intelligence artificielle, automatique, je sais pas quoi. Bref, je le laisse. Je me casse pas la tête. Je crois pas trop aux hashtags sur LinkedIn. J'ai peut-être tort, mais je crois pas trop aux hashtags. Et donc, voilà, je poste ça. Et puis... c'est pas la folie, on est dimanche, hein, je m'y attends. Il y a 8, 10 likes, et puis il y a 4-5 commentaires, des gens qui disent « bah ouais, c'est intéressant, ça me fait réfléchir sur le sujet, etc. » Et puis il y a une personne, Annabelle, que je salue, qui est une personne qui travaillait, avec qui je travaillais il y a quelques temps dans l'agence Séomantique, et que je connais bien. Et donc Annabelle qui passe, et puis qui voit ça, et qui me dit « c'est quoi ton prompt ?» Très curieuse de ça. Et moi, ça me fait réfléchir parce que je veux répondre quelque chose à Annabelle. Mais je peux pas lui donner mon prompt. Parce que vous venez d'entendre qu'en fait, mon prompt, ça a été une conversation entière. Et ça a été une recherche ensemble d'une formule idéale. Et c'est parce que je lisais le résultat que je lui proposais des correctifs et que je reprenais les corrections, etc. Le prompt, en fait, dans la mesure où aujourd'hui, je suis en capacité de faire à peu près n'importe quel contenu à ChatGPT, à peu près tous les niveaux de difficulté qu'il peut y avoir, y compris difficultés techniques, je commence à avoir une sérieuse maîtrise de l'instrument, le fait d'avoir un prompt, c'est comme si je disais à quelqu'un comment écrire une intro, mais d'un texte précis, dans un domaine précis, et pas la pluralité de toutes les intros qui peuvent marcher, de toutes les problématiques, etc. C'est comme le fait qu'on vous dise « il faut une problématique dans l'intro ». Je fais partie des gens qui affirment qu'il faut la problématique dans l'intro. C'est une idée que m'avait soufflé Lucie Laval il y a quelques temps, et qui est très cohérente par rapport à la démarche qu'on veut faire quand on écrit des articles de blog ou ce genre de choses. Et donc j'ai adopté ça il y a 5 ans, 6 ans, et depuis je travaille davantage là-dessus. Mais il existe des articles de blog qui ne doivent pas avoir la problématique dans l'intro. Donc ça s'ajuste et ça se questionne. Et on ne peut pas juste dire à la personne, tu vas faire ça, je te donne le prompt. Je sais que je dois écrire des articles bientôt pour promouvoir un peu la nouvelle formation qu'on fait sur ChatGPT, où j'apprends aux gens à s'autonomiser par rapport à ChatGPT, c'est-à-dire à apprendre ses limites, son fonctionnement, son cadre, comment on obtient des choses de lui, mais à surtout les travailler eux pour que eux sachent quoi demander et que eux obtiennent de ChatGPT ce qu'ils souhaitent. C'est ça mon objectif. Donc, dans ce cadre-là, je dois sortir des articles et je réfléchis à ça. On travaille avec Fleur là-dessus. Et notamment, un des sujets, c'est de dire, on va donner des prompts aux gens. On va dire, on va vous donner 5 prompts pour obtenir ça. C'est bien, mais il faut bien avoir conscience que les gens qui vont se contenter de ces informations-là, qui vont se dire que c'est suffisant, vont vraiment passer à côté de la vraie compétence de ChatGPT, qui est sa capacité d'imitation à condition que vous segmentiez vos actions. Donc c'est pour ça que j'avais fait le mini-guide, la mini-formation qui est disponible sur le Cercle des rédacteurs, allez-y, régalez-vous, qui est gratuite, dans laquelle il y a 26 pages de propositions d'actions possibles, c'est-à-dire qu'est-ce que ChatGPT est capable de faire. Moi, je ne voulais pas leur... Alors, il y a des endroits où je leur ai donné 2-3 prompts, enfin, c'est ChatGPT qui a généré les prompts directement pour lui, pour obtenir ça. D'ailleurs, tout le guide a été écrit par ChatGPT, écrit par ChatGPT sous ma direction en tant que chef, et ChatGPT n'a rien décidé de ce qu'il y avait dedans. Hein. Donc, voilà. Mais j'en ai parlé dans un post précédent de comment j'ai écrit ce guide. Ça m'a pris une journée à peu près pour écrire 26 pages d'une mini-formation complète. Et donc, en fait, cette mini-formation était là pour expliquer aux gens, prenez conscience de tout ce que ChatGPT peut faire pour vous. parce que il y a des exemples que j'aime bien citer. Par exemple, vous avez un mail de prospection, d'accord, qui dit « Bonjour, je m'appelle Sophie, je suis rédactrice web depuis tant et tant d'années, je suis spécialisée dans tel et tel sujet, je peux écrire là-dessus, voilà mes conditions de travail. » Bref, j'envoie ce mail en espérant que la personne ait besoin de quelque chose. Et c'est un mail très lambda, c'est-à-dire c'est fait pour être envoyé à n'importe qui. Bon. Avec ChatGPT, vous pouvez vous dire « Aujourd'hui, je vais attaquer... » Alors, je vous donne un exemple un petit peu coquin parce que ça me fait rire, mais les sex shops, par exemple. Donc, les sex shops ont besoin de contenu pour leur blog parce que bah, ça référence tout ça. Il y a des gens qui font plein de recherches sur Google autour de mots-clés un petit peu chauds. Et voilà. Donc, si je veux capitaliser... Et puis, j'oublie de préciser, mais les sex shops ne sont pas forcément dirty. C'est-à-dire... aujourd'hui, on trouve des sex shops qui sont avant tout des lieux d'hymne à l'amour et au couple et à l'union charnelle entre deux êtres qui s'aiment. Et c'est très poétique, c'est très raffiné, etc. Hein, on est un peu, on a changé de dimension. On n'est plus dans le sale et dans le caché. On est dans quelque chose qui s'expose, qui passe dans les magazines lifestyle, etc. Donc, il y a de l'enjeu à écrire des articles de blog qui soient tout public, mais qui parle d'union charnelle, de choses coquines, de sel dans le couple, de petits jeux entre amoureux, etc. Il y a quelque chose à gagner là-dedans. Donc, parce que la clientèle couple est quand même très conséquente par rapport à la clientèle libertine, vous voyez, ou un peu branché cul. Il y a beaucoup plus à gagner à s'ouvrir au tout public. Bref, il y a beaucoup de marques qui font ça aujourd'hui et qui se rachètent une énorme respectabilité là-dessus. Donc voilà, mettons, je suis intéressé pour écrire ces articles un peu lifestyle sexuel, sexo, on va dire. Je veux envoyer mon CV, enfin mon mail de prospection à une vingtaine d'adresses que j'ai trouvées. Donc, je choisis ma stratégie. Je peux choisir aussi d'envoyer des MP via LinkedIn. C'est très sympa aussi de faire un petit texte comme ça. Voilà, je peux faire ça pour vous. Je vous donne 2-3 exemples. Bref, voilà. Et je peux demander à ChatGPT, à ce moment-là, de m'adapter. Je lui donne mon mail de base et je lui demande d'adapter mon mail à une autre cible que je définis. Alors, parce que je vous rappelle qu'il fait de l'imitation. Donc, si vous dites « je veux m'adresser à un sex shop », il va vous faire un truc qui va être bien, mais un peu caricatural, un peu grosse marque de rouge à lèvres et fond de teint. Voilà, ça va faire un petit peu tapageur. Mais par contre, si vous lui donnez des définitions, par exemple, vous allez chercher un segment particulier de sex shop, vous allez récupérer des descriptifs parce qu'ils ont déjà écrit des articles sur ce qu'ils pensent de cette sexualité ouverte, transcendante, positive, voilà, constructive, quelque part, en tant que fondation du couple, et donc quelque chose de beau, et puis d'amusant, et puis c'est un jeu, et puis voilà, toute cette légèreté-là. Ben, vous donnez ça à ChatGPT en disant voilà, ça c'est les valeurs, ça c'est ce qu'ils disent, et maintenant je voudrais que tu leur écrives quelque chose à eux, et que tu adaptes mon mail à eux. Et là, l'adaptation qu'il fait, elle est vraiment bonne. Parce que là, vous lui avez dit comment vous feriez le travail, étape par étape. Je vais d'abord me renseigner sur les valeurs, les décrypter, comprendre le persona, savoir à qui je m'adapte, comprendre en fait quelles sont leurs problématiques, quelles sont leurs cibles. J'ai besoin aussi dans le mail de dire à la personne que je la comprends. C'est très important, c'est le principe AIDA, quoi. Il faut dans une première étape que je dise le public que vous ciblez, c'est celui-là et sa problématique, c'est ça. Et ce qui serait bien, ça serait d'avoir ce genre d'exemple d'article qui pourrait lui plaire. Et moi, je suis dans cette lignée-là. Pour telle et telle raison, je suis légitime à ça. Je ne suis pas spécialement cher, je vous donne des exemples de textes que je vends 50€. Voilà, cliquez sur les liens, allez voir mon portfolio, etc. etc. Donc, en faisant ça, ben, j'ai un mail de prospection qui est ultra efficace. Alors, je ne dis pas 100% de réponses positives, mais je dis, je peux même me débrouiller en faisant un call to action vraiment sympa et vraiment bien pensé pour que les clients répondent la plupart du temps, les prospects, soit par oui, soit par non, mais qu'ils envoient une réponse. Du moment qu'ils lisent le mail, ils envoient une réponse parce qu'ils sentent aucune pression, ils n'ont pas l'impression de devoir faire quelque chose, c'est très léger. Donc, on peut faire ce genre de choses. Et juste après, je décide d'attaquer le médical, juste après, je décide d'attaquer les pompes funèbres, juste après, je décide d'attaquer les boulangeries. Et en fait, je fonctionne toujours de la même manière et c'est toujours le même mail qui va s'adapter complètement à l'un ou à l'autre des sujets. Voilà, et des domaines. Et qui va à chaque fois faire quelque chose d'hyper convaincant. Alors moi, on m'a dit une chose qui est très juste, c'est oui, mais qu'est-ce qui se passe si le client vérifie que le texte a été généré ou pas par ChatGPT, parce qu'il se dit, si jamais la personne m'écrit ça et que c'est généré par ChatGPT, elle n'est pas sincère. C'est une très bonne question et je pense que c'est à vous d'être transparent suffisamment, pas trop, pas je m'excuse mais, pas de culpabilité, mais d'être transparent du genre je maîtrise également ChatGPT, mais je garantis à tous mes clients le fait que tous mes textes sont écrits à la main. J'insiste là-dessus. Hein. Nous, rédacteurs web, on a une carte à jouer pour Google, c'est le fait d'écrire tous les textes à la main. Google sanctionne les textes générés. Donc on peut faire tout, mais pas écrire. Donc, on dit, voilà, quand, pour mes clients, tous mes textes sont garantis 100% écrits à la main, tests à l'appui. Mais par contre, ChatGPT est une puissance de calcul de marketing que je maîtrise parce que j'en connais tous les rouages et je l'utilise dans le cadre de mon travail pour augmenter considérablement la qualité de mes écrits. La preuve, ce mail a été complètement adapté à partir des valeurs de votre site à cette audience spécifique. Parce que je voulais vraiment que vous puissiez voir et juger de la qualité de ce que je peux vous proposer. Donc on peut en faire une force, vous voyez ? On peut travailler l'argument pour en faire une force. Et ce n'est pas du tout idiot de le faire. On peut aussi le cacher et sélectionner que les clients qui ne vont pas vérifier cette information-là, parce que c'est vrai qu'ils sont minoritaires, les geeks qui vont se poser cette question. Donc on peut poser ces questions-là. Voilà. Donc en tout cas, ben, à la question que me posait Annabelle, à savoir est-ce que tu peux me donner ton prompt, je ne sais pas trop quoi lui répondre. Déjà, je n'ai pas envie de montrer mon prompt à la base, parce qu'il n'est pas, fait pour être montré. Hein. Ça ressemble à un truc du genre « j'ai envie de sortir un truc sur LinkedIn, voilà ce que j'aimerais, tu comprends, machin ». Je l'ai dicté en plus, parce que moi j'appuie sur le bouton qui permet de faire du speech to text. Je parle et ça écrit. Vous savez, tous les téléphones font ça. Si vous cherchez quelque chose qui fait ça, vous allez sur Google Drive, si jamais Microsoft ne le fait pas, parce que je ne connais pas Microsoft, mais vous allez sur Google Drive, vous allez sur Google Doc, et dans Google Doc, il y a une option de dictée automatique. Et voilà. Donc, tout simplement, vous dictez et puis vous collez ça après dans ChatGPT. Moi, j'ai une étape en moins, c'est j'appuie sur un bouton, je dicte, ça écrit. Voilà. Mais c'est pas du tout... Enfin, vous pouvez passer par une étape intermédiaire. Et donc, pour le coup, ben, je pars de l'idée que si je raconte à ChatGPT tout ce qui me vient en tête sur le truc, ben, y a beaucoup plus de chances que j'obtienne quelque chose qui me donne vraiment satisfaction derrière. Donc, j'essaye de structurer ma pensée, j'essaye de donner des cours qui expliquent ça, mais globalement, moi, j'en suis arrivé à une étape où je lui raconte toute ma life, en gros. Et je lui dis des fois, ouais. Alors j'ai aussi des pré-prompts qui sont déjà travaillés, hein. Donc des choses qui permettent de sortir un texte LinkedIn très efficace parce que j'ai défini tout ce que j'attendais en termes de fonctionnalité et j'ai juste à lui donner le sujet et à expliquer le sujet. Encore une fois, j'appuie sur le bouton et je parle. Je lui dis oui, tu comprends les rédacteurs web, je pense qu'ils pensent ça, il faudrait qu'ils pensent autrement. Tu comprends les enjeux, c'est ça, etc. Et puis après, il me fait le post tel que je l'aurais fait moi, mieux sans doute que je l'aurais fait moi parce qu'il est beaucoup plus audacieux que moi et c'est ça ce qui m'intéresse chez lui. C'est qu'il n'hésite pas à être vraiment un peu provoque parfois, ou vraiment un peu gênant, ou vraiment un peu clivant, parce qu'il ne se rend pas compte. Et moi, je trouve que c'est bien parce que moi, j'ose pas. Donc voilà. Et donc, j'avance là-dedans. Et donner ce prompt-là, sans cadre, sans rien, ça serait totalement incompréhensible. Parce que le poste, en plus, c'est une conversation, donc il faudrait que je donne l'intégralité de la conversation. Pour que les gens voient comment ça se passe. Ça pourra peut-être faire l'objet d'une vidéo pour montrer un peu plus en détail comment on travaille. Parce que, encore une fois, hein, c'est comme à l'époque, pas si lointaine, où j'argumentais au maximum, non pas pour le rédacteur web augmenté, mais pour le rédacteur web communicant, qui en réalité sont la même. J'ai rien changé, en fait, à mes objectifs. Par rapport à ça, le rédacteur web communicant maîtrise l'art de la communication générale et particulièrement écrite sur le web et le marketing également qui est une forme de communication d'une marque vers un public donc c'est quelque chose d'un peu plus complexe, c'est plus on décompose vraiment le rapport relationnel naturel entre deux humains, et parce que l'un des deux en fait n'existe pas et il faut qu'on le simule. Donc en gros c'est ça. Et donc j'ai toujours cette approche qui est duelle, mais qui est ce que je vends. En fait, on pourrait me voler tous mes cours, c'est pas la question, parce que ce que je vends, c'est une prise de conscience. Et cette prise de conscience, elle change tout. Elle change absolument tout. C'est comme si... vous savez, moi j'aime bien cette métaphore. J'ai entendu quelqu'un dire ça, ou quand un... Ouais, si je me souviens, c'est un podcast que j'écoutais. Il y a quelqu'un qui expliquait la différence entre un magicien et un sorcier. Vous pouvez peut-être ne pas connaître la différence entre un magicien et un sorcier. Et c'est très pertinent dans notre cadre à nous, là, maintenant. Le magicien, c'est quelqu'un qui a appris la magie, qui a appris à maîtriser les éléments magiques, qui sont des énergies fondamentales, colorées, c'est-à-dire magie blanche, magie noire, qui sont, grâce à certaines essences de bois, capable dans les baguettes de pouvoir engendrer tel et tel sort, telle et telle intention donnée dans tel et tel mot ou telle et telle phrase, les sorts anciens. Bref, c'est des gens qui ont manipulé une magie primaire il y a très longtemps et qui ont bâti des magies secondaires, c'est-à-dire des magies construites, en travaillant par exemple des sorts qui sont des espèces de prompts, si vous voulez, mais de la magie qui permet de transformer cette magie en quelque chose de précis qui, lorsqu'ils font un sort de transformation d'un objet en un autre, par exemple, ont décomposé l'intégralité des étapes et dans leur sort se trouve la commande de chacune des étapes, d'accord, qui mène à ça. Et ça, c'est vraiment le rédacteur web augmenté aujourd'hui. C'est-à-dire que d'un côté, c'est un communicant qui a vraiment une connaissance et une compétence forte sur l'intégralité des modes de magie, en quelque sorte, comment il arrive à générer un effet. Et donc le fait d'utiliser ChatGPT, c'est juste le fait de savoir avoir parfaitement conscience de toutes les étapes et de les faire dans l'ordre et avec puissance pour obtenir quelque chose de meilleur que ce qu'il fait sans ChatGPT. Ça, c'est l'idéal. Voilà. Et donc le sorcier, eh ben, c'est quelqu'un qui, lui, est enfant de la terre, naturellement, et qui vit pleinement dans de la magie et qui est sur de la magie primaire. C'est-à-dire que lui, il n'a rien appris. Lui, c'est complètement naturel. Il produit de la magie comme ça. D'accord ? Il est tout simplement au cœur de l'énergie de tous les éléments. Et donc, pour lui, c'est complètement un domaine en soi. Enfin, c'est son univers d'être magique. Vous comprenez ? Donc, l'un a appris à manier la magie parce qu'il n'en était pas familier, c'était pas son univers, et qu'il a appris toute la puissance, il en a fait une science, il a étudié chacune des étapes, et en ça c'est passionnant. Et il a construit des sorts, comme on construit des prompts. Et l'autre fonctionne complètement naturellement, instinctivement, sur la magie. Donc, je peux pas vous dire maintenant qui est quoi, qui fait quoi, etc. C'est juste... J'aime cette idée que Doctor Strange, dans Marvel, quand on voit Benedict Cumberbatch, pardon, je me disais, je vais quand même pas perdre son nom à lui. Donc Benedict Cumberbatch jouait le Doctor Strange, et qu'il est là, et qu'il décompose des trucs, et qu'il fait des mouvements, et on se dit, oh là là, c'est incroyable comme chorégraphie. Non, c'est pas de la chorégraphie, c'est du maniement des énergies. Et il est en train de fabriquer un prompt, en quelque sorte, pour obtenir des choses incroyables. Mais lui n'est jamais étonné de ses effets. Là où tout le monde fait « Waouh !» Lui, il n'est pas étonné. Parce que lui, c'est manier la magie. Donc, la magie de la communication fonctionne un peu de la même manière, quelque part. Vous envoyez un message, il est entendu, il fonctionne, il parle, il engendre un effet chez son auditoire. Ben, vous êtes magique. Vous savez faire un truc que d'autres ne savent pas faire. Mais là où la plupart des rédacteurs web se croient sorciers, ils ne se rendent pas compte qu'en fait, ils sont magiciens qui barbotent dans de la magie primaire. Mais ils ne sont pas sorciers. D'accord ? Il y a quelques rares personnes, Et encore, vous trouverez toujours un parcours de commercial ou de, voilà, d'école de commerce ou d'école marketing ou j'en sais rien. Vous trouverez toujours des gens comme ça. Mais il y a quelques personnes qui seraient capables d'avoir de l'instinct de communication en tant que marque. Et qui sont vraiment, enfin on les voit, hein, les success stories, les trucs comme ça, des gens qui sont vraiment capables de beaucoup, Steve Jobs en premier, qui était un extraordinaire commercial, et qui n'était pas forcément beaucoup d'autres choses que ça. Mais bon, donc, ce que je veux dire, c'est devenez magicien. Là, on me demande un sort. Quand on me demande un prompt, on me demande un sort. Un sort, les gens vont prendre ça, le mettre dans la machine, appuyer sur un bouton, obtenir un effet. C'est comme si je disais, voilà, je t'ai fait un sort pour que tu obtiennes la couleur octarine. Alors ma référence, c'est les annales du disque monde, je crois. C'est une couleur magique. C'est une couleur qui existe, mais chez les magiciens seulement, et c'est l'octarine. Donc voilà. Ne me demandez pas à quoi ça ressemble. C'est entre du bleu, du vert et du rose, mais fluo. Voilà. Donc de l'octarine. Et je vous donne le prompt et vous générez de l'octarine. Très bien. Et puis, c'est quoi la suite? Il n'y a pas de suite. Parce que c'est un prompt. Donc, j'ai réussi à faire quelque chose d'extraordinaire. C'est pour la phrase, hein. Je ne considère pas que c'est extraordinaire ce que j'ai fait. Mais j'ai réussi à faire quelque chose d'extraordinaire pour certains. Ou de vraiment convaincant en tout cas. Bon. On me demande le prompt. Mais on me demande... un sort, on me demande de faire un Wingardium Leviosa ou je sais pas quoi, mais on me demande pas d'apprendre la magie. Donc on est toujours un peu sur la même question. Tips or tricks, c'est-à-dire les trucs et astuces, ou alors le savoir de la magie, donc les sorciers ou le magicien. À vous d'y réfléchir, mais j'avais envie de dérouler aujourd'hui ce raisonnement autour finalement de l'usage de ChatGPT et de ma vision, et j'espère que ça vous aura intéressé. Je vous laisse à présent, je suis en pleine forêt, j'ai de nouveau perdu mon chien. Ah, c'est une bonne semaine qui commence. Bye bye!